vous écoutez une série spéciale des balados OIC.
Lorsqu'il est question des ruses de l'intelligence des femmes, il est frappant de voir que celles-ci concernent surtout, voire essentiellement, les ruses amoureuses. Comment amadouer l'amant? Comment tromper le mari? Comment punir ce dernier d'un adultère? Très souvent, les femmes dites rusées sont placées du côté de la tromperie, de la duperie, du mensonge et de la rivalité. Pourtant, la ruse est également appropriée aux situations économiques, politiques et militaires. Notre série de balados, intitulée « Les rusées » au féminin, vise à mettre en lumière ces différentes facettes des stratagèmes émancipatoires des femmes. Elle est le résultat d'une réflexion et d'un travail collectif autour de la question de la représentation de ces ruses, et elle décrit, à partir de différents corpus tirés de la littérature, de séries télévisées ou de faits historiques, cette intelligence qui sert aux femmes pour réussir, combattre, apprendre et se faire une place bien à elles. Ces exemples rendent visible la capacité d'abstraction, de direction, de spéculation et de ruse intellectuelle des femmes, femmes que nous nommons « femmes à métis ». La métis, notion difficile à circonscrire, correspond à une forme d'intelligence particulière dont l'action s'exprime en creux. Elle implique, selon Jean-Pierre Vernant et Marcel Détienne, un ensemble complexe, mais très cohérent, d'attitudes mentales, de comportements intellectuels qui combinent le flair, la sagacité, la prévision, la souplesse d'esprit, la feinte, la débrouillardise, l'attention vigilante, le sens de l'opportunité. L'individu doué de métis possède un pouvoir illimité de polymorphie, une intelligence assez retorse et souple qui lui permettent de mener à bien ses projets. C'est cette intelligence que ces balados tentent de débusquer, chacun à leur manière. Car la métis, multiple et diverse, reste difficile à saisir. Les personnages féminins et les femmes réelles présentées ici, qui appartiennent tant au 19e siècle qu'à notre époque contemporaine, doivent en effet ruser pour réussir dans des domaines souvent masculins. Il s'agit de cartographier les moyens employés et les capacités développées par ces femmes qui avancent hors des sentiers battus, tout en soulignant les stéréotypes convoqués pour les représenter, ainsi que ceux qu'elles doivent perpétuellement affronter et que notre société a encore bien du mal à lâcher.
Bonsoir, mon nom est Lorena Bure, je suis étudiante à la maîtrise en études littéraires avec concentration en études féministes à l'UQAM et ça me fait très plaisir d'être ici ce soir pour cet épisode qui s'intitule « De l'ambition à l'escroquerie, ce que les arnaqueuses nous disent de la société ».
Elle s'appelle Anna Delvey ou Anna Sorokin, personne ne sait vraiment, c'est une héritière méga richissime allemande ou une fille complètement fauchée et peut-être russe.
Bon,
c'est
Viviane,
ça le truc, personne ne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que le procureur vient de la rapatrier de LA pour une comparution aujourd'hui. Je me dépêche, je pars pour le tribunal. Et je suis déjà en retard.
Alors, je ne sais pas si vous avez regardé Inventing Anna. C'est une série sur Netflix qui retrace l'histoire vraie d'Anna Sorokin, interprétée par Julia Gardner. Alors, c'est l'histoire d'une femme pour le moins ambitieuse qui débarque dans la society new-yorkaise en clamant être une riche héritière allemande du nom d'Anna Delvey et qui, dans la poursuite de ses objectifs, eh bien, va réussir à en arnaquer plus d'un. Alors tout ça, ça nous fait penser à une autre grande escroquerie, et c'est celle de Thérèse Imbert, dont l'histoire est moins connue aujourd'hui, mais qui, à l'époque où ça s'est déroulé, donc à la fin du 19e, tout début du 20e, eh bien ça a été un véritable scandale en France. Elle a réussi à arnaquer des personnes très importantes, pour des sommes très importantes, et tout cela pendant 20 longues années. Et elle a aussi eu droit à son adaptation à l'écran, dans le téléfilm éponyme de Marcel Bluval et Jean-Claude Grimbert, et joué d'ailleurs par Simone Signoret.
De bonnes soirées en perspective pour les téléspectateurs d'Antenne 2. La bonne nouvelle s'appelle Thérèse Imbert, c'est une grande fresque qui se déroule au début du siècle. Une histoire authentique, celle d'une femme charmante qui savait escroquer son monde.
Alors Thérèse Imbert, c'est un peu la Anna Delvey du 19e. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'on fait face à deux époques différentes, sur deux continents différents également, et pourtant, il y a beaucoup de points communs dans leurs histoires. Alors comment Anna Delvey et Thérèse Imbert sont-elles perçues? Comment sont-elles représentées en tant que femmes? Et en tant que femmes escrocs surtout? Et qu'est-ce que tout ça nous dit de notre société? Mais alors d'abord, qui sont-elles? Pour reprendre l'histoire d'Anna Sorokin un peu plus dans le détail, elle naît en 1991 en Russie. Son père est chauffagiste et sa mère est au foyer. Il déménage en Allemagne quand elle a 16 ans. Anna est alors passionnée par la mode, le luxe, elle lit beaucoup de magazines axés sur ses univers. En 2012, elle décroche un stage à Paris pour le magazine de mode Purple, et c'est à partir de là qu'elle se fera appeler Anna Delvey. Et l'année suivante, le magazine va l'envoyer à New York pour couvrir la Fashion Week. New York, donc la ville de tous les possibles, et Anna le sait bien puisqu'elle décide finalement de rester. Et c'est là que va commencer l'escroquerie puisqu'Anna Delvey va raconter autour d'elle qu'elle est une riche héritière allemande. Pour rendre son histoire crédible, elle adopte tout simplement le mode de vie auquel elle prétend. Elle habite d'hôtel en hôtel, elle distribue des billets de $100 en guise de pourboire, elle porte des vêtements de luxe, elle a l'aspect, donc c'est-à-dire la façon de s'habiller, l'attitude, la prestance, et surtout, elle a les dépenses d'une riche héritière. Alors on ne remet pas son histoire en question. Anna est forcément riche, sinon comment pourrait-elle se permettre ce mode de vie ? Donc pour ça, le plan est simple mais efficace et repose sur l'expression en anglais « fake it until you make it », qu'on pourrait traduire par « fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses ». Et faire semblant d'être riche, eh bien ça passe par plusieurs ruses. Par exemple, Anna Delvey oublie souvent son porte-monnaie pour ne pas payer. Elle générait de l'argent sur des fonds inexistants en retirant jusqu'à être à découvert. Et dans la même idée, elle s'écrivait des chèques à elle-même. Dans les hôtels huppés aussi où elle restait, et elle est restée des semaines, hein, elle ne communiquait pas de carte de crédit au moment du check-in, ce qui lui permettait de toujours repousser les paiements de ses consommations. Ou, comme c'est le cas dans certains restaurants, elle partait parfois tout simplement sans payer. Mais Anna Delvey, ce n'est pas que ça. Elle a un projet de business qui nécessite beaucoup d'argent. Elle va alors s'entourer du gratin de la finance new-yorkaise pour obtenir un prêt de $22 millions. Pour ce faire, elle va falsifier des documents ou encore se faire passer pour son comptable familial. Alors, on ne lui accordera pas les 22 millions, hein, mais $100 000 tout de même. Entre-temps, elle part en vacances au Maroc. Elle laissera à son amie Rachel Williams une note plutôt salée de plus de $60 000. Et voyant qu'Anna ne la rembourse pas, Rachel finit par saisir la justice qui, elle, a déjà reçu de nombreuses plaintes et finira par attraper la fausse héritière. Alors l'escroquerie s'élève pour un montant de plus de $200 000. Elle est condamnée en 2019 à une peine allant de 4 à 12 ans de prison et elle en sort finalement en 2021. Et Thérèse Imbert dans tout ça, eh bien, une histoire similaire au point que c'en est troublant. Celle qu'on appelle la Grande Thérèse, née en 1855 en France, près de Toulouse, et c'est son père qui va l'éduquer dans l'idée que ce qui compte, ce n'est pas qui on est, mais qui les gens pensent que nous sommes. Donc cette même idée un peu du « fake it until you make it ». Par exemple, elle convainc ses amis de mettre leurs bijoux en commun pour faire croire aux courtisans qu'elles sont plus riches qu'elles ne le sont vraiment, et en apparaissant chaque fois avec de nouvelles parures. Alors comme ça, elle va rencontrer Frédéric Imbert, qui va la demander en mariage. Il étudie alors le droit et c'est le fils de Gustave Imbert qui a un certain prestige puisque voici une petite liste des différentes fonctions qu'il va occuper au cours de sa vie. Député républicain, sénateur inamovible, procureur général de la Cour des comptes, ministre de la Justice, président de la Cour des comptes, vice-président du Sénat, rien que ça. Alors ce monsieur ne veut pas que son fils épouse n'importe qui et c'est là que Thérèse, qui s'appelait Thérèse d'Aurignac, va raconter être l'héritière d'une vieille cousine, célibataire, riche et sans enfant, qui aurait même un château, bref, la vie de rêve, et cerise sur le gâteau, elle serait mourante. Bon, c'est plutôt convaincant. Alors Thérèse et Frédéric se marient en 1878 et après leur mariage, elle va lui avouer avoir menti, mais il va la pardonner, fasciné par son audace, par son charisme. Et par la suite, son mari va devenir son complice, parce que oui, l'escroquerie est loin de s'arrêter là. Thérèse Imbert raconte alors, encore une fois, qu'elle est l'héritière, mais cette fois d'un riche États-Unien. Et le couple emprunte alors de l'argent en promettant de tout rembourser une fois cet héritage perçu. Des juristes font même une expertise comptable, tout semble en règle. Tout le monde leur prête de l'argent et ils dépensent, et là aussi c'est l'opulence, c'est l'ostentation, ils achètent des hôtels privés, ils achètent le château des Vivesaux qui deviendra d'ailleurs le château de la Star Academy. Ils côtoient l'élite et les aristocrates, les banquiers, les politiques, mais bon, au fil du temps, les prêteurs commencent à s'impatienter jusqu'à ce que l'un des créanciers finisse par saisir la justice, 20 ans plus tard seulement tout de même. Donc en 1902, les huissiers se rendent chez les Imbert pour ouvrir le coffre qui sera vide. Donc un mandat international est lancé, ils sont retrouvés à Madrid et condamnés en 1903 à 5 ans de prison ferme. Ils auront escroqué pour un montant de $100 millions, ce qui équivaut aujourd'hui à $41 millions si on prend en compte l'inflation, soit près de $60 millions canadiens, c'est énorme. Alors malgré le bon siècle qui les sépare, le gros point commun entre ces deux femmes, c'est cette histoire, ce mensonge, plutôt autour de leur héritage. Mais s'il y a bien quelque chose dont Thérèse Imbert aura effectivement hérité, on l'a déjà dit, c'est l'art de l'escroquerie de son père, puisque lui-même avait employé ce genre de ruse auparavant. Il change son nom d'Aurignac, qui s'écrivait en un seul mot, en y insérant la particule du d'apostrophe pour pousser un peu cet aspect de noblesse. Et dans la même idée, c'est intéressant de noter qu'il y a ce même enjolivement chez Anna qui va passer d'Anna Sorokine à Anna Delvey. Et en plus de son patronyme, le père d'Aurignac va changer le nom de sa ferme en Château d'Œillet et surtout, il va faire croire à ses créanciers qu'il avait un oncle très riche en Amérique. Alors oui, ça nous fait penser à ce que Thérèse Imbert va elle aussi raconter, donc qu'elle serait l'héritière d'un riche Américain du nom de Robert Henry Crawford, à qui elle aurait sauvé la vie un jour dans un train. Seulement, l'héritage de 100 millions de francs est retenu par un problème de testament qui impliquerait les neveux de ce monsieur Crawford, incarné en réalité par les frères de Thérèse Imbert. Alors là, tout le monde y croit. Si les gens les voient de leurs propres yeux, ces neveux Crawford, c'est que la fortune existe bel et bien. Alors, elle est allée encore plus loin, Thérèse Imbert, puisqu'elle va porter plainte contre ses faux-neveux, donc ses frères, pour non-respect de contrat, et elle va gagner ce procès. Procès qui va appuyer toute son escroquerie, puisqu'il va générer des documents officiels qui vont attester qu'elle a bien un héritage, puisqu'elle vient de gagner son procès pour cet héritage. Et là, c'est la reconnaissance devant la loi de sa légitimité. Ça y est, Thérèse Imbert est héritière. De son côté, Anna Delvey raconte qu'à son 26e anniversaire, elle aura enfin accès à un fonds fiduciaire de 67 millions de dollars américains, son père étant un riche on ne sait trop quoi. Parfois diplomate, parfois propriétaire d'une galerie d'art ou alors roi du pétrole, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va au-delà du montant de la fortune. L'image, le mot même de l'héritière, va au-delà du fait d'être riche, c'est tout le symbole de la richesse en tant que classe sociale. On n'est plus seulement dans l'avoir de l'argent, c'est être de l'argent, on est héritière et on est surtout héritière du verbe naître. Donc c'est une fortune qui nous reviendrait de droit, de sang, un peu comme une noblesse. Et quelque chose qui nous revient de droit, ça touche au sentiment de légitimité. C'est ce point que je trouve très intéressant. L'héritage, c'est une certaine conception, une certaine relation à l'argent. Ça a une force évocatrice tout autre que la figure de la personne qui s'est faite elle-même. C'est-à-dire, par exemple, la self-made woman ou le self-made man. Donc, on peut voir dans le choix de se faire passer pour une héritière une façon de se réapproprier une sorte de destin rêvé. L'héritière, c'est un peu la chanceuse, la bien-née. Et quand le reste du monde naît dans des familles modestes ou pauvres qui triment pour s'en sortir, l'héritière, elle naît dans l'abondance, sans effort. Et voilà, s'approprier la figure de l'héritière, reprendre son destin en main, c'est le remodeler à sa façon. Mais alors, une fois leur subterfuge découvert, forcément, on va parler d'elle dans la presse et ça nous amène à nous pencher sur les représentations de ces femmes, de ces arnaqueuses. Qu'est-ce qu'on dit d'elle ?
Qui était Thérèse Imbert ?
C'est quelqu'un de totalement malhonnête et d'extrêmement rigolo. Et qui n'a pas fait couler une goutte de sang. Elle a fait des dupes qui étaient... déjà encore moins bien qu'elle, enfin... D'ailleurs, elle n'a pas fait... Je ne devrais pas dire elle, je devrais dire eux. Car je considère que c'est l'histoire d'un gang. C'est l'histoire d'une famille très unie. Et unie dans la supercherie, dans le mensonge et dans l'escroquerie.
Alors ici, Simone Signoret parle de Thérèse Imbert en tant que le rôle qu'elle incarne dans le téléfilm du même nom. Alors, vu l'époque, on ne peut malheureusement plus avoir de témoignages directs au sujet de Thérèse Imbert, de sa personnalité, mais ce n'est pas le cas pour Anna Delvey. Et les personnes qui la connaissent, eh bien, quand on leur demande de la décrire, on a des réponses qui vont un peu dans tous les sens. C'est une figure plurielle qui semble s'adapter aux personnes et au contexte, qui sait saisir les opportunités. Et ses caractéristiques de la femme améthyste, tout ça, elle sait tourner les situations à son avantage. Et c'est le cas de Thérèse Imbert qui réussit à se mettre dans la poche un créancier au départ méfiant par sa simple assurance, par sa simple force de conviction et son air un petit peu lasse, ennuyé, que joue très bien Simone Signoret à l'écran et également Julia Gardner dans le cas d'Anna Delvey. Ce sont des femmes riches, plus rien ne les impressionne ou ne semble les atteindre. Alors quand les affaires vont éclater, on va dire d'elles que ce sont des femmes manipulatrices, menteuses, égoïstes. On va dire de Thérèse Imbert qu'elle a des gros yeux, qu'elle est potelée, éloignée des critères de beauté de l'idéal féminin, qu'elle a la mâchoire trop carrée, qu'elle est vulgaire, qu'elle n'est pas intelligente, n'a pas de culture, pas d'esprit. Un journal va même se moquer de son zozotement et de son acharnement à maintenir son mensonge jusqu'au bout, du fait qu'elle mange des œufs. Et on dit d'elle que c'est une simple petite lingère de Toulouse, bercée par ses illusions au point de s'en être convaincue elle-même. Alors pour Anna Delvey, on va dire d'elle qu'elle est une mondaine écervelée, une vulgaire criminelle, bref, on ne la prend pas au sérieux, puisqu'il y a cette caricature de l'héritière qui lui colle à la peau, hein, celle de l'influenceuse, de la riche qui passe son temps dans les boutiques à vivre par l'accumulation de choses futiles et qui serait un peu bête sur les bords. Alors on représente Anna Delvey aussi comme insupportable, vaniteuse, sûre d'elle à en être hautaine, dédaigneuse, et ce qui est intéressant, c'est la part de sexisme hein, qu'on retrouve dans certains discours, il y a un double standard. part, les femmes n'ont pas le droit d'aimer l'argent, de vouloir en avoir par tous les moyens de la même façon que les hommes, eux, en sont permis. Est-ce qu'on reprocherait à des hommes escrocs, à des milliardaires, leur manque de gentillesse? Ou est-ce que la question ne se poserait même pas? Par exemple, dans la veine des romans 50 nuances de Grey, on voit au contraire toute une littérature se construire autour de la figure du milliardaire strict, autoritaire, distant et séduisant. Pas plus tard qu'hier, à la librairie où je travaille, on recevait un livre qui mettait en scène de la même façon trois frères milliardaires dont les caractéristiques vont être connotées positivement, puisqu'ils sont représentés comme désirables, comme des idéaux de l'accomplissement personnel et professionnel. Ils ont donc tous les droits d'être hautains. Ce sont des attitudes qui sont encouragées chez l'homme riche, mais alors une femme est ben, ça se doit d'être gentil, serviable, c'est pas censé être menteuse et vénale et manipulatrice. On va plus réprimander ses comportements chez elle et l'avocat d'Anna Delvey va même jouer sur ça pour sa défense. Il va dire « Mais non, Anna Delvey est une gentille fille et écoutez bien ce qu'on va lui répondre. »
Elle représente tout ce qui va mal en Amérique en ce moment. Et elle n'est même pas américaine.
Personne ne la condamnera. C'est Robin des Bois. C'est une vraie héroïne du peuple.
C'est une sale petite arnaqueuse.
C'est une jeune fille douce et gentille.
Alors ça, c'est sexiste. Anna est une criminelle d'aujourd'hui.
On lui répond, c'est sexiste. Alors oui, les femmes peuvent tout être, alors les femmes peuvent même être des criminelles. Seulement, être une femme criminelle ne fait pas échapper à la misogynie. On ne juge pas seulement le crime strict. Le sexisme influence les perceptions autour de la femme criminelle, comme le déclare ici Anna Delvey.
Chaque jour, des hommes font des choses bien pires que tout ce qu'on m'accuse d'avoir fait. Et quelles sont les conséquences pour eux? Il n'y en a pas. Aucune conséquence, aucune répercussion et jamais de prison. Alan s'en remettra. Il va sûrement monter en grade. Les hommes finissent toujours par s'en sortir.
Les hommes finissent toujours par s'en sortir. Alors ici, Anna Delvey parle d'Alan, un banquier qu'elle a mené en bateau, mais qui, suite à ça, a été tout simplement promu par sa direction. Et c'est aussi illustré dans la série avec un homme que Anna Delvey fréquente, et qui, lui aussi, va arnaquer des investisseurs pour sa compagnie, mais à lui, il ne lui arrivera rien. Il se lance tranquillement dans son prochain business, comme si de rien n'était. Alors qu'Anna, elle, finit en procès et en prison. Donc, dans le cadre d'actions illégales, dans des procès pour escroquerie qui concernent des femmes, on va encore plus mettre l'accent sur le fait que ce sont des manipulatrices, des menteuses. Comme elle le dit, il y a des hommes qui font la même chose, voire bien pire, mais qui, eux, vont subir zéro conséquence. Donc dans un premier temps, on ne met pas en lumière toute l'intelligence derrière ces escroqueries. Alors oui, c'est d'un côté pour ne pas glorifier ces actes illégaux, mais dans un autre sens, on les dépouille d'un certain mérite parce qu'il faut le faire. Il faut avoir l'audace, l'assurance, la confiance en soi pour accomplir ce genre d'escroquerie. Et en ce sens, je trouve que Netflix joue le rôle de rectifier un peu l'honneur, si je peux dire, d'Anna Delvey, puisque la storyline elle-même est qu'une journaliste convainque Anna de lui raconter son histoire pour qu'elle puisse reprendre le contrôle de son image.
Le Post a déjà publié deux articles sur elle en la qualifiant d'apprentie mondaine.
Personne ne lit le Post.
Les jurés lisent le Post, et le Post la tourne en dérision. Une mondaine écervelée. Je suis persuadée que c'est pas vrai, cette fille est tout sauf écervelée. Je sais pas ce qu'elle est, mais elle est pas stupide.
Alors oui, il faut le dire, elle n'est pas stupide, il y a bien de l'intelligence derrière ces arnaques, il y a une connaissance parfaite ici des codes sociaux, une compréhension du système et de ses rouages, des mécanismes bancaires. Toutes les deux sont conscientes de l'importance du paraître. Elles ont aussi un savoir du droit, de la procédure, elles ont de l'ambition et par exemple, toutes les deux, dans leur propre siècle, vont jouer de cet argument des banques étrangères, des mauvaises communications de part et d'autre de l'Atlantique. Ce sont les banques américaines qui bloquent dans le cas de Thérèse Imbert et ce sont les banques européennes qui sont lentes chez Anna Delvey. Alors l'un des principaux arguments d'Anna dans cette histoire, c'est qu'au-delà de l'escroquerie, il y avait un projet derrière tout ça à financer. Ce n'était pas de l'arnaque pour de l'arnaque, elle construisait la Anna Delvey Foundation et l'argent généré par la réussite de ce business aurait remboursé les prêts et les dettes qu'elle avait contractées.
Ma co a dressé un portrait, une fausse image de moi en prétendant que je suis stupide, futile, superficielle, une personne vénale qui court après l'argent. Je veux que vous sachiez que ce qu'elle dit... Ce n'est pas moi du tout. Je ne passe pas mon temps en soirée. J'essaie de bâtir un empire.
Et Thérèse, elle opérait selon le procédé de la cavalerie bancaire. Elle empruntait à A pour rembourser B, puis à C pour rembourser A et ainsi de suite. Mais à côté de ça, elle aussi avait monté une entreprise pour générer de l'argent sur le long terme. Une société d'épargne qui s'appelait la rente viagère et sur laquelle beaucoup se sont précipités en raison des taux de rendement très attractifs. Alors ça génère beaucoup d'argent que le couple Imbert utilise pour rembourser ses anciens investisseurs. Mais voilà, ils empruntent toujours et toujours plus d'argent et ne viennent pas à bout des remboursements lorsque l'arnaque est percée à jour. Donc c'est à se demander si, dans le cas de Thérèse Imbert, il y avait vraiment l'objectif de convertir l'arnaque en business légitime. Et en parlant business par ailleurs, parlons donc de l'intelligence marketing, du génie financier derrière ces escroqueries.
Fortress. On n'entre pas chez Fortress sans avoir une clé. Et les seules clés sont l'argent et le pouvoir. Si Anna a réussi, elle a dû faire preuve d'un sacré génie financier. Et même si elle n'a rien fait, elle a quand même dû faire preuve d'un sacré génie financier.
Et oui, on retrouve des techniques qui sont pratiquées par plusieurs entreprises aujourd'hui, dont le « show don't tell ». C'est un peu le principe de ne croire que ce que l'on voit. Alors au-delà de dire qu'elles sont héritières, on l'a vu, Anna Delvey et Thérèse Imbert vont paraître et se comporter en tant que telles. Elles vont démontrer leur richesse avec des démonstrations ostentatoires, comme des banquets, elles portent de la haute couture, Anna Delvey distribue des billets de 100 dollars, on l'a dit. Donc des actions qui vont crédibiliser leur histoire, qu'on pourra rapprocher du concept un peu du storytelling d'une entreprise. Ensuite, elles usent de ce qu'on appelle l'emprunt d'autorité, c'est-à-dire que pour gagner en influence, elles vont s'entourer de figures déjà influentes qui vont servir d'arguments d'autorité, leur donner du poids, les rendre convaincantes. Dans le cas d'Anna Delvey, elle s'entoure des meilleurs architectes, des meilleurs cuistots, elle se repose sur cette toile sociale pour grimper les échelons. Et chez Thérèse Imbert, on retrouve cela aussi avec sa première ruse, qui est celle de pénétrer cette sphère sociale en épousant Frédéric Imbert, dont la famille, on l'a dit, a un certain prestige, surtout le père Gustave Imbert, qui va servir de figure d'argument, on le respecte, on lui fait confiance, donc par extension, on va faire confiance aux personnes de son cercle. Toutes les deux, enfin, vont exploiter les failles du système. Anna Delvey, celle du lead scoring, qui est un formulaire utilisé par les banques pour calculer le potentiel du chiffre d'affaires d'un projet. Donc elle identifie les critères importants et fait en sorte de cocher le plus de cases possible pour devenir, aux yeux des banques, une opportunité commerciale à saisir au plus vite, quitte à faire l'impasse sur certaines vérifications. De son côté, Thérèse Imbert tire profit des failles de la justice avec l'aide de son mari, qui est alors avocat. Elle va déjouer le système avec cette histoire, on l'a vu, de testament, de rupture de contrat et de faux procès qui vont générer des documents à partir de rien, documents qui serviront même à appuyer l'histoire de Thérèse Imbert. Alors, ce qui est encore plus impressionnant dans ces histoires, c'est qu'on ne parle pas de n'importe quel montant ou de n'importe quel milieu social. Parmi les créanciers, on retrouve en effet des personnes très très influentes, de grandes banques, des politiques qui se sont fait avoir. Et le fait que ce soit par des femmes, une très jeune femme dans le cas d'Anna Delvey et une femme tout court à l'époque de Thérèse Imbert, eh bien, ça va donner un petit côté exceptionnel à leurs histoires qui vont exploser dans les médias et attirer parfois même les sympathies du grand public parce que voilà, on n'en revient pas, ça sort de l'ordinaire des femmes escrocs. D'ailleurs, le terme même de femme escroc est paradoxal, on est obligé de dire femme escroc pour marquer le féminin puisque le mot escroc n'a pas de féminin à l'origine et c'est pour dire, à l'époque de Thérèse Imbert, la criminalité féminine est très rare. Les femmes ne représentent que 6% de la population carcérale et encore moins pour des affaires d'escroquerie. L'argent, la finance, est considéré alors comme une affaire d'hommes. Donc il faut voir ça aussi comme une action émancipatrice pour Thérèse Imbert. Elle se fait son argent à une époque où les femmes n'avaient pas de pouvoir économique. On est sous la Troisième République, alors pour elle, le code civil en vigueur, c'est celui de 1804, qui légifère une hiérarchisation genrée de la société, au centre de laquelle se trouve la famille. Donc, il réduit les épouses à un rôle subalterne. Elles devaient obtenir l'accord de leur mari pour signer des contrats commerciaux. C'est eux qui devaient gérer leurs finances personnelles. Les femmes ont droit à toucher un salaire seulement en 1907, et on n'y est pas encore, puisque Thérèse est condamnée en 1903. Donc voilà, réussir financièrement dans un cadre pareil, ça va à l'encontre des représentations de la place des femmes en général, et des femmes criminelles en particulier, comme nous le dit l'historien Frédéric Chauveau. Donc à l'époque, on ne s'explique pas comment Thérèse Imbert a pu se jouer d'autant de personnes. Alors au lieu d'attribuer ça à une quelconque intelligence ou une faute du système, on va expliquer ça par des traits de caractère individuels compatibles avec l'image qu'on se fait alors des femmes, le mensonge, la dissimulation, l'art du langage, on dit-elle que c'est une grande commère. Mais dans le même temps, et parce que ça a été un énorme scandale, Thérèse Imbert va contribuer à modifier justement cette image de la femme criminelle qui fauterait pour une histoire de cœur, de jalousie, d'avortement ou d'infanticide. Non, elle est l'autrice d'une manigance financière. Elle s'éloigne beaucoup des autres femmes qu'on a vues défiler en cour d'assises à l'époque, et dans mes collègues, Léa et Louise, parlent elles aussi dans leur épisode « Désavouer la ruse ». Alors Thérèse Imbert, elle va un peu incarner l'escroc contemporain dans l'ère de son temps, donc la belle époque, obnubilée par l'argent. Elle a eu un impact énorme sur l'imaginaire et quand on lit par exemple le chroniqueur Louis Joubert à l'époque, on note une certaine fascination autour du personnage dont il dira qu'elle brille par son sang-froid, son sens de la répartie. Elle parle parfois d'elle-même à la troisième personne, il la qualifie, je cite, « de femme virile d'un génie pratique ». virile puisqu'elle a touché la sphère économique, n'est-ce pas ? Donc on lui reconnaîtra finalement une certaine intelligence, une maîtrise de la ruse. On l'appellera héroïne nationale, on va dire que c'est l'escroquerie du siècle, une merveille de la procédure. On va l'appeler la Grande Thérèse et c'est pas rien, ça renvoie par exemple à Alexandre le Grand, cette idée qu'elle a su conquérir un statut social, une grandeur et femme escroc et grandeur, ça n'allait pas forcément ensemble avant tout ça. Alors oui, Thérèse Imbert manigance avec l'aide de son mari, mais là encore, elle était bien obligée, vu son époque, avec l'importance de la famille et des conventions, de se présenter avec un mari qui, de plus, va bien l'aider puisqu'il était avocat. Et quand on passe à un personnage comme Anna Delvey, qui va hurler à un moment de la série qu'elle n'a pas le temps pour son copain, qu'elle n'a pas besoin de lui, eh bien, ça fait du bien et ça marque aussi un peu le progrès qu'on a fait depuis. Plus besoin de mari pour arnaquer. Enfin, pour Anna Delvey comme pour Thérèse Imbert, il y a ce mot qui revient souvent, le génie. Thérèse Imbert revendique toute l'intelligence de sa ruse et dans la série d'Anna Delvey, c'est quelque chose de très important pour elle aussi, la reconnaissance de l'intelligence derrière tout ça. Elle veut démontrer qu'elle n'est pas une mondaine écervelée, qu'elle y était presque, qu'elle est une femme d'affaires et la reconnaissance de son génie, ça a plus d'importance même que d'alléger sa peine. Donc on voit qu'entre la figure de l'arnaqueuse criminelle et de la génie héroïne nationale, il y a un discours social un peu divisé autour de ces figures et ce décalage provient du fait que la société elle-même est divisée. L'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de grossir, c'était déjà le cas au 19e et ça l'est plus encore maintenant. Alors pour une certaine partie de la société, pour les puissants qu'elle a arnaqués, eh bien c'est répréhensible, c'est hors la loi. Mais on l'a vu, il y en a chez qui ça ne suscite pas de l'indignation et c'est tout le contraire même, elles vont devenir des sortes d'idoles populaires. On parvient à s'identifier, si on veut, aux arnaques d'Anna Delvey et de Thérèse Imbert. Nous aussi, on vit dans cette société où la richesse est synonyme de réussite et représente un idéal à atteindre par tous les moyens, quitte à tricher un peu parfois. On a l'exemple de Frank Sinatra au début de son succès, qui payait la foule pour se déchaîner un peu autour de ses déplacements et créer donc l'engouement autour de lui et faire décoller sa carrière. Ou encore Quentin Tarantino, qui au début de sa carrière également écrivait sur son CV qu'il avait joué tel rôle dans tel film qui n'existait absolument pas, pour obtenir justement des rôles. Alors dans le cas de Sinatra et de Tarantino, c'est moins gros, hein, ils ne se sont pas fait passer pour des héritiers, mais c'est cette même logique un peu romantisée de la success story, du fake it until you make it, dans lequel berce la société capitaliste. Et c'est ce qui va d'un côté adoucir l'opinion autour d'Anna Delvey, de Thérèse Imbert, parce que c'est une mentalité qui parle au grand public, qui s'identifie dans cette quête du gain. Dès lors, Anna Delvey et Thérèse Imbert vont incarner l'image, la possibilité de la transfuge de classe. Écoutons.
Anna a fait comme Sinatra afin de devenir la personne qu'elle voulait être. Une personne pour qui tout le gratin new-yorkais déroulerait le tapis rouge. Et pour ça, elle a fait en sorte que chacun ne voit que ce qu'il voulait bien voir. Ce n'était pas un crime quand Sinatra l'a fait. Et ce n'est pas un crime non plus aujourd'hui. Tous ces gens que vous allez entendre voulaient à tout prix qu'Anna soit une héritière allemande fortunée, parce que quelque part ça les arrangeait bien de le croire. Donc c'est ce qu'ils ont eu. Il n'y a pas eu un seul moment où Anna a eu l'intention de voler de l'argent à qui que ce soit. Tous les gens qui vont entrer dans cette salle et s'asseoir sur cette chaise, tous ces gens-là voulaient le lui donner cet argent parce qu'ils voulaient tous faire du business avec elle et s'approcher de Anna Delvey, la jeune héritière allemande. Ces mêmes personnes auraient-elles fait affaire avec Anna Sorokin, une étrangère issue de la classe moyenne? Non, Anna a dû faire semblant pour accomplir son destin.
Alors, la sociologue Dalia Namian théorise ce qu'elle appelle la société de provocation, qui par elle-même encourage cette quête de l'argent, où la richesse est perçue comme un accomplissement, un idéal à atteindre, ce que Romain Gary décrit dans son roman Chien blanc comme une société, je cite, « en expansion économique qui se livre à l'exhibitionnisme constant de ses richesses et pousse à la consommation et à la possession par la publicité, les vitrines de luxe, les étalages alléchants, tout en laissant en marge une fraction importante de la population qu'elle provoque à l'assouvissement de ses besoins réels ou artificiellement créés, en même temps qu'elle lui refuse des moyens de satisfaire cet appétit. » Anna Delvey et Thérèse Imbert représentent à la fois ces deux extrémités de la société. Ce sont des femmes d'origine modeste qui aspirent à l'extrême richesse, celle qui va au-delà même de la richesse, hein, ce qui est représenté d'ailleurs par le château chez Thérèse Imbert et par le jet privé et le yacht chez Anna Delvey. Pour reprendre Dalia Namian, un yacht, ce n'est pas qu'un yacht, c'est tout le statut social qu'il y a derrière. Alors dans une société de provocation, comme son nom l'indique, c'est la société elle-même qui provoque ces rêves-là. Une société patriarcale qui plus est, où les portes s'ouvrent beaucoup moins facilement pour les femmes, qui sont amenées à ruser pour suivre leurs ambitions. Alors Anna Delvey et Thérèse Imbert s'appuient sur l'escroquerie en tant qu'ascenseur social et cette audace-là même de transcender sa propre origine sociale, d'entrer dans ce cercle des 1%, eh bien ça donne un sentiment de proximité avec certaines personnes, ça rend le rêve tangible, possible, on les comprend et en plus de ça, elles arnaquent des personnes déjà riches qui ne sont pas du tout dans le besoin, c'est presque une justice sociale. Donc on le voit ici que la ruse est une réponse au désarroi populaire. C'est tout l'art de ces crimes parce qu'ils sont compréhensibles. On les pardonne presque d'avoir essayé. Et à l'époque de Thérèse Imbert, donc la belle époque, je le répète, il y avait déjà cette littérature, notamment L'argent de Zola en 1891 ou encore le personnage de Georges Duroy dans Bel ami de Maupassant en 1885. Ce sont des livres qui explorent les mécanismes de l'argent facile. Et dans la même idée, dans la culture américaine, on l'a déjà dit, c'est la mentalité « fake it until you make it », je me répète, hein, c'est quelque chose qui est glorifié. Il n'y a qu'à lire Paris Hilton, qui était une sorte de modèle pour Anna Delvey. Donc dans son autobiographie « Confession d'une héritière », sortie en 2004, elle dit qu'être héritière, c'est dans la tête, c'est la confiance en soi, c'est l'assurance. Et elle va même dire que si on n'est pas né dans une famille riche, personne n'a besoin de le savoir, qu'on peut se réinventer. Donc tout est dans l'état d'esprit. D'ailleurs, même une fois les arnaques percées à jour, Anna Delvey ne sort pas de cette mentalité d'héritière et Thérèse Imbert ne cédera même pas et maintiendra jusqu'au bout que les Crawford existent. Alors si Anna Delvey et Thérèse Imbert vont incarner en quelque sorte des idoles populaires, c'est aussi parce que leurs histoires nous disent pas mal de choses sur nos sociétés. Leur procès va en effet dévoiler aux yeux de tous et de toutes la circulation de l'argent, de la richesse en cercle clos, des taux d'intérêt, des commissions énormes, des sommes impressionnantes, des montants qu'on a du mal à concevoir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement 60 millions de dollars? Les gens réalisent l'ampleur du fossé entre le patrimoine économique des plus démunis et même de la classe moyenne et ce genre de richesse-là. Donc c'est l'inégalité sociale dans toute son obscénité que leurs histoires vont illustrer. Chez les deux, il y a des créanciers qui, au moment du procès, ne vont plus trop se souvenir combien ils leur avaient donné. Et c'est difficilement imaginable de ne pas être à un millier ou à un million de dollars près. Ces gens n'ont concrètement pas la même vie du tout. Mais alors, si certains ne se souviennent plus trop, c'est aussi parce qu'il y a une certaine honte à leurs yeux de s'être fait avoir par nos héroïnes, par nos transfuges de classe. On parle de City National Bank, de Fortress chez Anna Delvey, des figures politiques, de la magistrature, de la finance chez Thérèse Imbert, des personnes qui ont plutôt intérêt à ce que ces affaires ne fassent pas grand bruit ou de ne pas trop souligner toute la part d'intelligence derrière ces arnaques qui, parallèlement, font aussi lumière sur leurs propres incompétences. En 20 ans, jamais personne n'a pensé à vérifier que les Crawford existaient bien. Et on a prêté 100 000 dollars à Anna Delvey, qui se faisait passer par son propre comptable et créer ses documents sur Excel. Donc ce sont des choses qui ne sont pas censées se passer dans des compagnies pareilles. Ce sont des histoires qui illustrent donc à merveille la cupidité, l'appât du gain de nos élites financières qui, envoûtées par la promesse du capital, vont se mettre à ouvrir des portes autrement très difficiles à ouvrir. C'est aussi une critique de ce mythe de la méritocratie où on s'appuie sur quelques exemples de self-made man ou woman pour faire miroiter que de telles ascensions sociales sont possibles dans une société où on voit bien que finalement, c'est l'argent, le milieu social, le réseautage qui font la réussite. C'est une sorte de boys club, c'est loin d'être juste le travail et la motivation quand on n'a pas les moyens ni les contacts. Beaucoup de projets tombent malheureusement à l'eau. Donc voilà, ça met en lumière cette circulation de la richesse de l'élite politico-financière, on l'a dit, qui est tout à coup très embarrassée d'être associée à des arnaqueuses, qui deviennent alors un peu le symbole qui permet de fustiger cette société guidée par la cupidité et qui ne donne sa chance que quand elle y trouve son propre compte. Dans le cas de Thérèse Imbert, on se demande même si ça ne cache pas une affaire encore plus grosse. Il y a des personnes qui ont beaucoup perdu, mais qui ne vont pas du tout se montrer dures envers les Imbert. On entend parler de solutions à l'amiable, il y a des réticences à appuyer leurs accusations. On laisse des zones d'ombre qui portent à croire que l'élite les protège un peu pour se protéger elle-même. Et en effet, vu les personnes impliquées, c'est toute la République et son symbole qui est en jeu. Thérèse Imbert, à plusieurs reprises, va d'ailleurs faire allusion à un secret qu'elle ne dévoile pas et qui changerait la donne. Mais on ne saura jamais. Donc c'est comme ça qu'elles vont devenir pour certains finalement les victimes de ces histoires. C'est le système qui en tord puisqu'il permet ces failles, puisqu'il provoque cette faiblesse face à l'appât du gain et elles n'auraient que mis en pratique toute l'idéologie de la réussite. On va dire que ce n'est pas de leur faute si les institutions et les personnes impliquées ont mal fait leur travail parce qu'ils étaient aveuglés par la promesse de l'argent. Par exemple, au procès des Imbert, le syndic de la faillite dira en parlant d'eux qu'ils n'avaient jamais vu de débiteurs exploités à ce point par leurs créanciers. Alors on passe un peu de criminel à idole populaire, puis à martyr de la société de provocation. Le chroniqueur judiciaire Henri Vonnoven, à l'époque, qui travaille alors pour Le Figaro, en tire une lecture très intéressante, je cite « Comme l'escroquerie, leur procès eût pu être des plus grands du siècle, un procès de morale sociale, le procès des mensonges de la civilisation moderne, ce que Bluval et Grimbert vont illustrer dans le téléfilm, écoutant Simone Signoret à ce sujet.
Il y avait l'occasion pour eux, pour, je dis bien, Grimbert et Bluval, de raconter cette France-là, parce que cette France-là qui était la plus riche et la plus pauvre en même temps. Et c'est l'époque la plus revancharde, la plus raciste, la plus xénophobe, la plus patriotarde, la plus
chauvine.
Mais voilà, au moment du procès, il s'agissait au contraire de protéger les valeurs de la belle époque, assurer le développement du capitalisme financier et les privilèges de l'élite. Pour Vonnoven, le procès est malheureusement minimisé aux proportions du jugement d'une femme vénale et audacieuse et écarte totalement une lecture critique de la société. Et on peut lire l'histoire d'Anna Delvey exactement de la même façon, une critique d'une société américaine grandement influencée par la vertu d'égoïsme de la philosophe pro-capitaliste Ayn Rand, où on nous fait miroiter le confort et le luxe d'une très petite partie de la population et on se ruine en tentant d'accéder à cet idéal et, ce faisant, on contribue toujours plus à la richesse de l'élite. Donc il y a ce sentiment de se faire avoir par le capitalisme, c'est à se demander si le capitalisme ne serait pas la véritable arnaque derrière toutes ces histoires. Pour conclure, ces arnaqueuses auront su attirer la sympathie de l'opinion publique puisqu'elles représentent la possibilité, l'audace de l'ascension sociale et une certaine justice, si ce n'est une revanche sur les élites financières. Alors je vous incite, si ce n'est pas déjà le cas, à regarder le téléfilm sur Thérèse Imbert et la série Inventing Anna, en gardant en tête bien sûr que ce sont des adaptations. La véritable Anna Delvey le dit elle-même, il ne faut pas considérer la série comme un documentaire et voir plutôt dans son personnage une caricature. Alors les histoires en elles-mêmes sont folles, c'est pas étonnant qu'il y ait eu des adaptations à l'écran, on croirait déjà à un scénario de film. Et je pense que ce qui fascine encore plus, on y revient, mais c'est parce que ce sont des femmes, on les trouve badass, ça fait penser un peu à cette célèbre phrase de Cher qui, quand sa mère lui dit qu'elle devrait épouser un homme riche, répond « Maman, c'est moi l'homme riche ». Alors ça fascine, ça scandalise, et c'est aussi surtout parce que ces histoires nous disent beaucoup sur nos sociétés. Alors il faut surtout retenir tout l'art de la ruse qu'il y a derrière, et dans le cas d'Anna Delvey, on peut dire qu'il y a une ruse après la ruse. Alors elle a vendu les droits de son histoire à Netflix, qui l'a rendue célèbre, mais une loi qui s'appelle la loi du fils de Sam l'empêche de s'enrichir sur l'histoire de son crime. Donc l'argent de la série ne lui revient pas, et sert à rembourser les victimes de son escroquerie. Mais elle parvient quand même à capitaliser sur son histoire puisque maintenant qu'elle est célèbre, elle s'est mise à la peinture et vend ses œuvres à des fans sur Internet. Je ne suis pas critique d'art, je vous laisserai juger par vous-même. Enfin, des femmes escrocs, il y en a plein. Il n'y a pas que les histoires d'Anna Delvey et Thérèse Imbert. Je vous invite à découvrir celles d'Olga Deterding, de Violette Charlesworth, de Bertha Heyman ou encore de Martano et plus récemment d'Elizabeth Holmes, portée à l'écran d'ailleurs dans la série The Dropout. Et voilà, j'espère que leurs histoires vous auront passionné autant qu'elles m'ont fasciné. Je vous remercie pour l'écoute et très belle soirée.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de l'épisode 6 des Rusées, une série spéciale des balados OIC. Pour réécouter les épisodes de la série Les Rusées et découvrir leurs compléments, rendez-vous sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion.